Voici le programme qui nous propose d'être joyeux, car les épreuves nous permettent de grandir dans notre maturité avec Dieu. Il nous propose d'être joyeux, car nous savons que nous allons recevoir la couronne qui nous a été promise. Voilà les deux raisons qui nous proposent pourquoi être joyeux dans son épître dans le chapitre 1. 1 à 12, il nous propose des épreuves externes qui sont conséquences de notre foi. Des versets 12 à 18, des épreuves internes qui sont conséquences de notre péché. Et ce matin, je vous propose de nous focaliser, de regarder ensemble la première, les premières épreuves, les épreuves externes qui sont conséquences de notre foi. Et avant de lire, je vous donne quelques éléments de contexte qui vous permettront de mieux rentrer dans l'histoire. L'épître de Jacques, la lettre écrite par Jacques, est une lettre pratique. Elle soulève plein de questions. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est souvent comment on va mettre ça en pratique. Vous voyez souvent les « oui, mais si on fait comme ça, alors ça va se passer comme ça, mais s'il n'y a pas ça, machin ». Vous voyez, je sais pas, moi je suis un peu comme ça, hein. Vous allez peut-être vous dire que je suis tordu, mais ça part, on peut dire une affirmation, mais les conséquences pratiques, les applications sont souvent complexes à mettre en place. Jacques, on le voit très peu, il y a une épître qui fait quelques chapitres, mais en fait Jacques c'est une personne qui est importante dans le Nouveau Testament. Jacques était le frère de Jésus, il avait de grandes responsabilités dans l'église à Jérusalem. Lors d'une grande réunion pour décider ce qu'on appelle un concile, c'est lui qui est l'acteur principal, l'apôtre Paul, qu'on a plus l'habitude d'entendre, il le désigne comme la colonne de l'Église. Et même l'épître de Jude, il se présente comme serviteur de Christ et aussi frère de Jacques. Donc, des fois on peut se dire, oui, c'est une petite lettre qui a peu d'importance, mais les auteurs du Nouveau Testament et le contexte nous montrent que c'est une personne importante. C'est une pointure. C'est la référence. C'est une référence, pardon. Aussi, un élément pour nous aider à mieux comprendre cette épître, c'est qu'au moment où Jacques écrit, l'Église n'est pas formée comme on pourrait le voir dans d'autres épîtres. Nous sommes même pas 10 ans après la mort du Christ. C'est la première épître que nous avons du Nouveau Testament. L'Église n'est pas désignée en tant qu'Église, mais on parle de synagogue, où sont rassemblés des chrétiens, mais aussi des gens qui sont juifs encore, et les deux cohabitent, ou les deux vivent ensemble, et ça génère quelques difficultés relationnelles. Comme les chrétiens veulent suivre l'enseignement du Christ. Comme par définition, un chrétien suit l'enseignement du Christ. Et ça provoque quelques difficultés. Donc quand vous allez lire cette épître avec empressement cet après-midi, n'oubliez pas cette idée. Je vous propose de faire la lecture de le premier chapitre des versets 1 à 12 de l'épître de Jacques. Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion, bonjour. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur. C'est un homme à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. que le frère, de basse condition, mette sa fierté dans son élévation et le riche, au contraire, dans son abaissement, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans son entreprise. Heureux l'homme qui endure l'épreuve. En effet, après avoir été éprouvé, celui-là recevra la couronne de la vie qu'il a promise à ceux qu'il aime. Seigneur, nous sommes face à ta parole. Nous voulons entendre, comprendre et vivre. Seigneur, je te demande que ton esprit travaille nos cœurs pour que nous puissions vivre avec toi et grandir sur ce chemin. Par Christ. Amen. Les épreuves, conséquences de notre foi. J'évoquais tout à l'heure le contexte assez difficile. Et certains essayent de suivre l'enseignement de Jésus, mais ils sont tourmentés par d'autres, soit directement à cause de leur foi, avec de la maltraitance, de l'injustice, des persécutions, soit face à des situations qui mettent leur foi à l'épreuve, avec la question de savoir comment agir, comment réagir dans telle situation, dans tel cas. On ne connaît pas exactement les problèmes, mais Jacques, à plusieurs moments dans l'épître, dans sa lettre, parle des riches et des pauvres. D'un côté, on peut avoir les pauvres qui mettent en avant, sur un piédestal, les riches, pour différentes raisons. C'est ce qu'on avait vu dans les groupes de maison. On a aussi les riches qui abusent à tel point qu'ils vont même faire mourir certains pauvres. Et Jacques, pardon, au chapitre 5, va des fois être assez virulent face à ce comportement. Et bien sûr, comme ce n'est pas si simple que ça, c'est très pratique, ce ne sont pas toujours les méchants riches et les gentils pauvres. Certains riches pouvaient eux-mêmes souffrir du déclassement social à cause de leur foi. C'est ce que nous voyons là dans les versets 9 à 11. Et là, Jacques, dans cet exemple, appelle à se focaliser, à se réjouir en Christ. Quoi faire face aux persécutions, aux épreuves externes? À se réjouir. À se réjouir pour deux raisons. Aujourd'hui, elles nous permettent de grandir avec Christ. Et se réjouir parce que plus tard, nous serons avec Christ. Les épreuves sont l'occasion de pouvoir grandir dans notre dépendance avec Dieu, dans notre relation avec lui. Les épreuves permettent d'évaluer notre maturité spirituelle. On pourrait dire que notre réaction face aux épreuves va révéler notre degré de maturité. C'est super ? Non ? Non. Bon. Face aux épreuves, nous devrions dire « Merci Seigneur, car cette épreuve, je vais pouvoir expérimenter qui tu es. Je vais pouvoir expérimenter ma dépendance à toi. Je vais pouvoir vivre selon ta volonté. C'est génial !» Toujours pas. Mais de temps en temps, parfois, souvent, très souvent, nous disons « mince, encore une épreuve ». Au lieu de dire « chouette, c'est une bonne occasion de grandir avec toi, Seigneur ». Mais il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. La question d'être accompli, parfait, c'est un mot qui veut dire la maturité. C'est ce qu'on entend par la sanctification, la croissance. Les épreuves permettent de grandir pour qu'il ne nous manque rien. Un chrétien mature est un chrétien par qui on voit le Christ. Et Paul écrit que notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Quand il paraîtra, alors nous paraîtrons avec lui, en participant à sa gloire. Et la maturité n'arrive pas comme ça. On aimerait bien, hein, un claquement de doigts et c'est bon, on est là, on est là. Non, ça marche pas. Elle se construit, elle se développe. Et elle se développe souvent avec les épreuves. Plus on grandit, plus on avance, et plus on a une attente aussi de cette maturité. Une personne qui a 5 ans, 10 ans, 60 ans, on n'a pas les mêmes attentes suivant les âges. De la même manière, une personne qui est chrétienne depuis 5 ans, 10 ans, 40 ans, nous n'avons pas les mêmes attentes. Et même, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira « Vous devriez être des maîtres !» Et pourtant, vous êtes encore à vous rappeler les bases de la foi. C'est une interpellation, quelque part, que Jacques nous pose dans notre maturité. Est-ce que nous la recherchons ? Est-ce que nous la voulons ? Est-ce que nous voulons cette dépendance à Christ ? Est-ce que la maturité, c'est un abandon progressif vis-à-vis de Dieu, pour vivre selon sa volonté, en entrant dans ses plans, et pas essayer de faire entrer Dieu dans nos plans. La maturité, c'est vivre selon Dieu, tout en sachant les bases, le fondement de la foi qui est déjà posé. Le rachat de notre vie à la mort par Christ, sans contrepartie de notre part. Ça, c'est les bases. Et c'est le bon de le rappeler ce matin. On est sauvé sans contrepartie de notre part, sans devoir faire des choses. Notre maturité, notre respect de Dieu, n'est pas une contrepartie pour obtenir quelque chose de Dieu. Mais c'est une démonstration de notre vie en lui. La croissance, la sanctification, la maturité ne s'effectue pas en sachant qu'on va être condamné comme une épée d'Amoclès, mais par joie, parce que nous savons déjà que nous allons hériter de la couronne de vie. Parce qu'elle nous permet, aujourd'hui, de mieux connaître Christ. Et c'est en ce sens que les épreuves, je dirais, sont nécessaires pour nous montrer le chemin à parcourir. Ce n'est pas la souffrance en tant que telle qui est bénéfique. C'est la réaction de l'homme à l'épreuve de sa souffrance. Et John Stott continue en disant « Si la souffrance n'est pas créatrice, on n'est guère créatif sans souffrir. Ce n'est pas la souffrance qui fait grandir, mais on ne grandit pas sans souffrance. » Et l'apôtre Jacques n'exprime pas qui est l'auteur de ces épreuves. Et d'ailleurs, il me semble qu'il ne veut même pas rentrer dans cette question. Ce n'est pas son but. Son but, c'est de nous savoir comment nous allons gérer ces épreuves en pratique. Jacques ne dit pas non plus qu'il faut rechercher ces épreuves. Dans un monde réel, les épreuves viennent toutes seules. Plus vous allez vivre unis à Christ, centrés sur lui, plus vous allez être à contre-courant, plus les épreuves viendront. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez en rencontrer. Et soyez joyeux de vivre avec Christ. Dans ce monde, nous sommes sans cesse challengés dans notre foi. Soit on va vivre ces questionnements comme des moyens de grandir, soit on va se laisser attraper et on va reculer. La vie chrétienne ressemble beaucoup à l'escalade d'une montagne de glace. Vous ne pouvez pas glisser vers le haut. Vous devez assurer chaque étape avec un piolet. Ce n'est qu'avec un travail incessant de coups de taille que vous pouvez progresser. Si vous voulez savoir comment rétrograder, arrêtez d'aller de l'avant. Cessez de monter et vous descendrez par nécessité. Vous ne pouvez jamais rester immobile. Les épreuves, soit vous les vivez comme un moyen de vous rapprocher de Dieu, pardon, soit ça va vous descendre dans votre relation avec lui. Mais elles ne sont jamais neutres. Réjouissons-nous aussi, car nous obtiendrons la couronne de vie, au verset 12. Heureux l'homme qui endure l'épreuve, avec Dieu bien entendu. En effet, après avoir été éprouvé, celui-là recevra la couronne de la vie qu'il a promise à ceux qu'il aime. Et on l'a vu dans l'épître de Jacques, hein, vous êtes joyeux devant cet héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni perdre son éclat, car il vous est réservé dans les cieux. Lors de la révélation de Christ, vous l'aurez. Ok, théorie, on est content avec ça, on veut bien. Mais comment faire? Comment se réjouir? Tout simplement, en demandant à Dieu. En lui demandant sa sagesse. C'est ce que Jacques nous propose. Et il le dit directement. Hein. Il dit, il faut que vous soyez accompli parfait. Bon, au cas où vous manquez un peu de sagesse, demandez à Dieu. Demandez-lui. Dieu donne généreusement et sans faire de reproche. Autrement dit, ça ne vaut pas le coup de s'en passer. C'est une bonne affaire, c'est la bonne promo. Dieu donne généreusement et sans faire de reproche. Il y a un truc qui est un peu dérangeant dans ce texte. En tout cas, moi, il m'a dérangé. Demander sans douter. Et là, je pense que c'est un point un peu difficile de ce texte. Pas confondre le doute et l'incrédulité. Le doute n'est pas de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est une non-croyance. C'est le contraire de la croyance. Le doute est un état de suspension à mi-chemin entre la foi et l'incrédulité. Vous voyez les différences? Une personne qui doute n'est pas un incroyant. Il ne sait juste pas trop, il est un peu instable. Un incrédule a choisi de ne pas croire ou de croire en autre chose. Donc, premièrement, je pense qu'il ne faut pas confondre les deux. Parce que l'incrédulité est un choix arrêté, un refus délibéré de croire ou une volonté consciente de désobéir, et c'est pour cette raison qu'elle est condamnable. Après, un autre point, il me semble, de vigilance, c'est qu'il ne faut pas mettre tous les doutes dans le même panier. Là, il fait face, Jacques propose un doute particulier, le doute dans la capacité de Dieu. Et si vous voulez réfléchir sur cette question du doute, on a ce livre à la bibliothèque, « Au-delà du doute » de Os Guinness. Et pas confondre avec un fabricant de boissons pétillantes. Il est très bien, très très bien. Mais là, je veux juste me focaliser sur le doute dans la capacité de Dieu. Jacques nous dit qu'il ne faut pas douter de la capacité de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on va savoir comment il va faire les choses. Ça ne veut pas dire qu'on va se demander mais comment il va s'y prendre. Mais c'est douter de la capacité de Dieu. Et dans la suite de son épître, hein, il dit on peut faire confiance à Dieu parce qu'il est l'unique, le grand Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure, dans l'Église, il y a à la fois des chrétiens, des juifs. Il rappellera, oui, vous croyez que Dieu est unique. Et les démons aussi le croient. Le schéma Israël, l'Éternel, ton Dieu est un, référence au Deutéronome. Mais ce n'est pas suffisant là. Dieu est unique, ok. Il n'y a pas de force, de compétence au-delà de lui, ok. Il est capable, très bien. Mais il ne faut pas seulement dire que Dieu est unique, qu'il est capable, parce qu'il peut être capable sans rien faire. Des fois, il y a peut-être la flemme. On pourrait se dire ça. Mais non. Dieu est unique, il est capable, et il donne avec générosité et sans faire de reproche. Donc, quand nous demandons à Dieu sa sagesse, il faut nous souvenir que Dieu a les capacités, qu'il n'y a pas de plus grand que lui et qu'il va nous le donner avec générosité et sans faire de reproches. Il n'est pas agacé parce que nous lui demandons des choses. Au contraire, il donne avec générosité et sans faire de reproches. Et ça, c'est des fois difficile. On dit, on va encore lui demander ça. Mais je lui ai demandé il y a 10 minutes. Allez, on va dire il y a un jour. Mais non, Dieu, il s'en fiche. Au contraire, il l'attend pour nous donner avec générosité. Il le fait sans nous faire de reproches. Parce qu'il nous aime. Demander à Dieu, en fait, c'est une manifestation de notre maturité. C'est montrer que c'est lui notre influenceur, notre YouTubeur préféré. On va vers lui, on se connecte. C'est pas simple. À des moments, on perd quand même pied. On n'est pas tout le temps endurant. Pour ma part, pas tout le temps, ou pas comme je l'aimerais en tout cas. Je suis souvent déçu de moi-même. Mais à quel moment je perds pied? Quand je n'ai plus une vision très claire de Dieu. En particulier, la vision de la souffrance, de la gloire de Dieu. Quand j'oublie que la souffrance fait partie du lot du chrétien à la suite de son maître. Et Timothy Keller écrit que Jésus-Christ n'a pas souffert pour que ne vous souffriez pas. Il a souffert de telle sorte que lorsque vous souffrirez, vous deviendrez comme lui. L'Évangile ne vous promet pas de meilleures conditions de vie, et cette phrase est importante, il vous promet une vie meilleure. Et ça, c'est une façon de voir la souffrance. Christ ne promet pas de meilleures conditions de vie sur cette terre. Il nous promet une vie meilleure avec lui. À quel moment je ne suis pas endurant? Quand je n'ai plus une vision claire de Dieu? Quand je commence à douter de lui? Et je lui dis, t'es sûr qu'il faut tourner à gauche là? Un peu comme le GPS, hein. Je ne sais pas si vous, quand vous partez en vacances. Si, si, il dit d'aller à gauche. Non, je suis sûr qu'il faut aller à droite. Et du coup, c'est un peu bizarre. Mais vous ne prenez pas la bonne route. T'es sûr que le GPS, il a raison quand même? Comme si, voilà. Vous voyez vraiment l'idée? T'es sûr? J'avais lu une histoire. Une personne qui voulait être enrôlé pour combattre, enfin pour être résistant à la guerre. Et du coup, il avait juste un rendez-vous avec le chef de la résistance. Il n'en avait pas deux. Et il passe un long moment avec cette personne qui va lui expliquer de long en large le plan, la finalité, comment ça va se passer. Mais après, il ne le voit plus, il n'a plus le droit de le voir, il ne peut plus communiquer avec lui. Et à un moment donné, le combat, la situation devient plus compliquée. Et il commence à douter. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment être endurant dans cette étape? Il ne peut plus voir le chef, il peut discuter avec ses collègues pour être encouragé. Mais il se souvient d'un truc. Qui doit faire confiance. Parce que le chef, c'est ce qu'il fait. Je ne dis pas que tous les chefs savent ce qu'ils font. Je dis juste que là, pour le coup, il savait que c'était la bonne solution. Vous voyez bien, mon exemple s'arrête là. Parce que Dieu attend que nous le demandions et que nous lui parlions, que nous communiquions et que nous demandions sans cesse son aide. Donc c'est pour ça que l'exemple n'est pas sur la capacité de demander plusieurs fois. Mais des fois, on se dit pourquoi ? Et juste dire, ben, Dieu sait. Je lui fais confiance. Je ne sais pas pourquoi il y a ces étapes, je ne sais pas pourquoi il y a ces difficultés, mais je décide de lui faire confiance. Et au verset 17, l'apôtre nous rappelle que Dieu n'a pas de variation, il ne change pas, il est toujours le même. En évoquant ses bienfaits, tout don excellent, tout don présent, tout présent, parfait, vient d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, chez qui, c'est là où je voulais insister, qu'il n'y a pas de changement ni d'éclipse, pas de variation, il est le même. Il est le même. Quand nous lisons la Bible, on peut voir que Dieu avait une certaine capacité. Donc, si vous doutez de la capacité de Dieu, je vous invite à relire certaines histoires dans la Bible, à relire l'Ancien Testament, que Dieu est capable. On n'a pas à douter. Et des fois, troisième idée pourquoi on ne pourrait pas être endurant, c'est qu'on doute de nous-mêmes, de notre capacité à saisir la sagesse de Dieu. Et quelque part, j'ai tendance à penser qu'on fait bien de douter de nous-mêmes. Parce que c'est Dieu lui-même qui va nous donner aussi les capacités. Alors, c'est une invitation encore plus à lui demander, à dépendre de lui. Il donne généreusement et sans faire de reproches. Et si on n'y arrive toujours pas, nous sommes sur un chemin de sanctification. On est peut-être un bébé, un enfant dans la foi, un ado, un adulte, un vieillard. Mais à chaque étape, nous devons rechercher cette croissance. Dieu souhaite que nous soyons des chrétiens adultes auxquels nous ne manquons rien. Ça veut dire, c'est ça qui est intéressant, un chrétien adulte, c'est un chrétien qui est totalement dépendant de Dieu. Ce n'est pas un chrétien qui est autonome vis-à-vis de Dieu. La maturité, souvent humaine, c'est une autonomie. Mais là, la maturité en Christ, c'est la dépendance à Dieu. C'est seulement grâce au Christ que nous pouvons grandir. C'est lui qui nous regarde favorablement. Lui a tout accompli. C'est lui qui va nous transformer par son esprit pour que nous puissions vivre ces épreuves avec lui. Quand les épreuves sont là, Jacques nous invite à nous réjouir d'avoir une occasion de grandir. Jacques ne se lasse pas de nous dire de demander à Dieu. Jacques ne se lasse pas de nous dire qu'il faut demander à Dieu, pardon. De demander cette sagesse qui est pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est une définition qui donne au chapitre 3, verset 17. Si vous voulez quelque chose à retenir, une idée clé, un verset clé, ça serait les versets 2, 4 et 12. Et je vous fais un medley de ces versets. Soyez joyeux, car les épreuves vous permettent de vous rapprocher de Dieu en lui demandant sa sagesse. C'est la maturité. Soyez joyeux, car plus tard, vous recevrez la couronne de la vie qu'il a promise. Et cette couronne, Dieu l'a destinée par sa bonté gratuite et sa pure grâce. Il ne fait que conduire, que nous conduire à la recevoir et à nous en rendre capables. Nous l'avons déjà réservée dans les cieux et il nous conduit vers cette couronne. Je vais vous proposer un temps pour réfléchir, s'approprier ce que nous venons d'écouter de la part de Jacques. Je vous propose d'identifier une de vos épreuves. Je vous propose tout de suite de prendre un temps pour prier personnellement pour cette épreuve et pour que Dieu vous guide, vous donne sa sagesse. Pour demander à Dieu de vous transformer par son esprit, de vous, que vous lui laissiez la place de vous transformer par son esprit.